Je crois que l'histoire de la construction européenne est par définition une histoire qui est ponctuée de crises. Donc elle est ponctuée de crises, donc de pauses, voire de reculs, pour deux raisons, me semble-t-il. La première, c'est que les États-nations d'Europe, ce sont des choses qui existent et que la construction européenne a vocation à les dépasser et que ça ne peut pas se faire sans difficulté. Les peuples, les gouvernements, les élites politiques et autres peuvent à tel ou tel moment, pour telle et telle raison, rechigner à abandonner un petit peu de ce qu'est la spécificité, l'identité, les caractéristiques d'un État-nation pour transférer leurs compétences à quelque chose qui les dépasse. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'évidemment, plus on est nombreux, plus on s'aperçoit qu'en effet, il est difficile d'appliquer la logique de la construction européenne, qui est une logique de consensus.
Mais cette logique européenne dont vous parlez ne peut empêcher qu'il y ait divergence de vues. Alors comment faire ?
On a tout entendu sur cette constitution. Pour certains, elle est trop libérale. Pour d'autres, elle ne l'est pas assez. Donc ça prouve que cette diversité européenne qui existe encore, et tant mieux à certains égards, rend très difficile l'harmonisation des points de vue à un moment donné. Mais il ne faut pas renoncer à cette logique qui est une logique de négociation et de consensus. Donc ce processus, prégnance des États-nations et obligation de trouver des consensus, des compromis qui par définition mécontentent beaucoup de monde, c'est la logique de la construction européenne et donc c'est ça qui explique en général les crises qui se produisent. Tout ceci se situant aujourd'hui sur un fond de panne de la croissance qui fait que les marges de manœuvre diverses et variées qui résultent des années de croissance n'existent pas, sur fond d'emploi qui tend la situation sociale et politique dans beaucoup de nos pays, et donc évidemment ce contexte international, les divisions aussi qui sont nées de la guerre en Irak, tout ça ne facilite pas les choses.
Et certains mettent en avant la rapidité de l'intégration, l'élargissement aussi à l'Est. Est-ce que ce sont des arguments qui retiennent aussi votre attention ?
Non, vous savez, cet élargissement n'a pas été aussi rapide que ça. Le mur de Berlin est tombé en novembre 89, c'est-à-dire il y aura bientôt 16 ans. Ces pays ont été associés à l'Europe au début des années 90, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans. Il y a eu des négociations qui ont duré, disons grosso modo, une petite décennie, et une intégration qui s'est faite au terme de tout ça, après que toute une série de mécanismes d'adaptation de toute nature les ait mis en mesure d'adopter ce que l'on appelle l'acquis communautaire. Par contre, et ça c'est un problème auquel naturellement les responsables politiques ont à réfléchir, c'est vrai que tout le travail de pédagogie, d'explication, de compréhension, mais aussi tout le travail, disons, de vente en termes de pur marketing politique, de la grandeur de l'idée européenne, de sa nécessité, de sa justification, d'explication de ses mécanismes, de comment elle fonctionne, évidemment que tout ceci n'a pas été fait. Et ça n'est pas nouveau. En France, on a pris cette habitude de dire que quand il y a quelque chose qui va bien, c'est parce que nous nous sommes opposés à Bruxelles, et quand il y a quelque chose qui va mal, c'est parce que nous avons été contraints par Bruxelles. Vous ne pouvez pas à la fois dire à votre peuple des choses comme ça, et ensuite venir lui dire « c'est formidable, votez oui ». Et je pense qu'on va payer aussi cela au prix le plus fort.